quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Vous ne vous êtes jamais demandé ce que vous seriez devenu si vous n'aviez pas fait tel ou tel choix? Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Je rêvais d'être écuyère chez Bartabas à l'Académie équestre de Versailles, que je salue d'ailleurs aujourd'hui. Mais faute de talent, faute de courage aussi peut-être, j'ai opté pour l'option micro. Et oui, en devenant animatrice de cette émission en quête de sens, qui me passionne au demeurant depuis maintenant 5 ans. Alors, ai-je des regrets? Eh bien, parfois oui, il faut bien l'avouer, des regrets comme celui-là qui peut, au fond, s'enorgueillir de ne pas être juste visité par la tentation de vouloir ou d'avoir voulu tout embrasser à l'heure du tout est possible. Comment apprendre à renoncer pour faire de bons choix de vie? Ah ah, vaste question qui nous occupe et nous préoccupe là aujourd'hui, ce soir, pendant ces 52 minutes en compagnie de mes 3 invités. J'ai la grande joie de recevoir pour commencer Ludivine Casili. Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir à nouveau, vous qui êtes toujours hypnothérapeute, psychothérapeute, formatrice, qui accompagnait les DRH d'entreprise et les adultes en général pour s'affirmer et oser être soi. Après mon cahier hypersensible que vous aviez publié chez Solar, vous revenez cette fois avec l'audace d'être libre. Donnez-vous l'autorisation d'être vous-même. Ce n'est pas tout d'être un titre, il faut l'appliquer. Et ça, parfois, à mon avis, il faut toute une vie, même peut-être toujours, j'en sais rien, pour être soi-même. Au courrier du livre, merci d'être là.
Merci.
Nous sommes également en compagnie de Daniela Silva Moura. Bonjour Daniela.
Bonjour Marie.
Ravie de vous recevoir. Vous êtes docteur en psychologie et en psychopathologie clinique. Vous appliquez une approche intégrative, instructrice que vous êtes en thérapie cognitive basée sur la méditation de pleine conscience. Vous avez plus de 15 ans d'expérience maintenant en psycho, des adultes et des adolescents. Une riche expérience également en recherche dans le domaine de la biopsychologie, avec plus de 7 études scientifiques reconnues. Donc votre dernier ouvrage, « Mieux je me connais, mieux je me soigne », également publié aux éditions du Courrier du Livre, le guide pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien, là aussi il y a du boulot. Et enfin, nous sommes en ligne avec Chantal Labesse. Bonjour Chantal.
Bonjour Marie-Ange.
Bienvenue, vous êtes coach de dirigeant, de sportif de haut niveau également depuis plus de 15 ans. Vous êtes experte en reprogrammation mentale, en stratégie de la réussite. Voilà, vous êtes DRH et coach de dirigeant, on l'a déjà dit, et vous avez publié plusieurs ouvrages un petit peu sur le même thème que nos 2 invités ici. Vous, c'est Changer sa vie. Alors, Changer sa vie en 21 jours, c'est le petit dernier aux éditions Très Daniel, n'est-ce pas Chantal Labesse? Est-ce que j'ai oublié quelque chose vous concernant?
C'est exact, non, bah,
écoutez,
parfait.
C'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors, c'est vrai que, voilà, je vous ai exposé là, bam, sur la table, pas de la cuisine, du salon, mais presque, ce petit regret qui me titille quand je passe devant évidemment cette Académie équestre, mais je pense que on est tous autour de cette table avec nos regrets qu'on charrie avec la vie, quoi, hein, qu'on le veuille ou non, voilà, n'est-ce pas?
Alors non.
Non, c'est vrai.
Non, moi j'ai pas de regrets.
Vous n'avez pas de regrets? Ça existe, les personnes sans regrets?
Bah je sais pas, mais
bravo.
Ou alors j'ai pas de mémoire, mais en tous les cas, il y a un des deux. Non, j'ai pas de regrets parce que j'ai toujours l'impression d'avoir mis en place les choses pour pas avoir de regrets,
ouais.
Pour me dire...
Vous en avez eu avant?
Est-ce que j'en ai eu avant?
C'est l'introduction de votre livre, je vous le rappelle. Hein. Et qu'est-ce que je serais devenue si j'avais
pas
fait ça?
Oui, mais c'est plus des questionnements, en fait, que des regrets. C'est plus de se dire, bah tiens, ça rejoint le sujet de l'émission.
Qui aurais-je été si je n'avais pas accepté ça et ça, si je m'étais positionnée avant, si j'avais dit non plutôt que oui, quelle femme serais-je aujourd'hui?
Oui, c'est plus des questionnements de se dire, si j'avais fait d'autres choix, qui je serais?
Ouais.
Que de dire, je regrette de ne pas l'avoir fait.
D'accord. Daniela, même question, même réponse?
Non.
Ah
non.
Ça me rassure quand même.
Alors peut-être que vous avez une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire, ou que, tout simplement de la chance. Mais moi j'ai une autre vision du regret. Je pense que c'est quelque chose qui... Je pars du principe où si les émotions existent et qu'elles ont été conservées au fil de notre développement, d'existence, et qu'elles ont une raison d'être.
D'accord.
Toute émotion est très légitime d'être là. Et le regret, c'est aussi une émotion qui est un peu complexe, mais c'est aussi un état émotionnel. Maintenant, là où il va devenir freinant, c'est quand on va ruminer autour de ce regret-là. Mais à la base, le regret vient pour nous permettre de nous interroger sur où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je pourrais faire pour me rapprocher au maximum de là où je voudrais être.
D'accord. Écoutez, je fais ce que j'ai à faire. Hein. Je quitte tout de suite pour aller m'entraîner.
Sachant que quitter, enfin, aller le plus près possible de là où je voulais être, ce n'est pas forcément revenir à des décisions que j'ai laissées dans le passé, mais se demander qu'est-ce que j'aimerais cultiver dans ma vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre.
D'accord.
Sur le plan plus profond, plutôt que juste matériel, en fait, ou de l'action. Mais qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien? Quel est le type de sensation, d'émotion, d'idée à propos de moi-même que j'ai envie de cultiver? Et qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui, ouais, pour que ce soit le cas? Donc, on peut tout à fait dépasser sa culpabilité ou son regret de ne pas avoir fait ci ou faire ça. Mais... si on le fait de manière saine, je pense qu'effectivement, on arrive comme, comme vous avez bien réussi à se dire, moi, je n'ai plus de regrets parce que, en fait, j'ai accepté mes choix. Et je suis bien en cohérence avec ce que je suis aujourd'hui. Donc, pourquoi regretter finalement? Mais il peut exister.
Ouais, Chantal. Et vous, Chantal?
Bonjour, mes deux collègues. Mais surtout, en fait, dans le sens où je n'ai pas vraiment de regrets parce que j'ai toujours été alignée dans ma voie, dans ma quête de sens, hein, et surtout par rapport à mes valeurs fondamentales. Donc, en fait, je suis toujours allée dans une direction où les choses aussi étaient faciles, au fil de l'eau, où le flow est possible. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être cette chance, hein, mais je rentre dans une pensée où si je suis au bon endroit, en règle générale, je n'ai pas de regrets à avoir après.
Ouais. Ludivine Casilet, est-ce que je me permets de vous poser la question un petit peu différemment vous concernant. Est-ce que parfois ça vous a traversé, alors avant tout ce travail, que fut le vôtre et que peut-être l'est-il encore, en cours, au fond, avez-vous regretté peut-être cette enfance traumatisante que fut la vôtre? Est-ce que vous, parfois vous avez été traversée par... Et si seulement j'avais eu une enfance comme les autres
Non. Non. Alors, ça non plus.
Que précisons quand même pour nos auditeurs que vous avez été abusée pendant de nombreuses années quand vous étiez petite, etc. Donc, enfance traumatisante, on peut le dire.
Oui, mais ça aussi, je pense que c'est je suis fondamentalement convaincue, enfin je ne vais rien apprendre, mais que la vie est mouvement. Donc, si on part du postulat qu'on s'arrête à un moment donné sur la vie en se disant « Ok, je m'arrête à cet événement-là », j'aurais pu effectivement me dire « Ah, mais avec ce que j'ai vécu, c'est la question aussi de la responsabilité et du libre-arbitre et de se dire « Est-ce que je fais de moi une victime ou est-ce que je continue d'avancer ?» Pour ce qui est de l'épisode que vous évoquez, j'étais petite. Donc, quand on a 4 ans, 5 ans, 6 ans, on ne se pose pas la question de savoir « Est-ce que je vais regretter ? Est-ce que je ne vais pas regretter ?» On avance dans sa vie, on règle les choses et après on se positionne en disant oui mais j'ai vécu ça, du coup aujourd'hui j'en suis là, aujourd'hui je regrette, aujourd'hui je peux pas faire ma vie. Moi c'est pas le choix que j'ai fait, pour une raison qui est très simple, c'est marrant, j'en parlais il y a deux jours, c'est qu'après cet épisode-là, j'ai été hospitalisée pour des problèmes de dos et j'ai vécu avec des enfants en hôpital pendant très longtemps et je savais que ces enfants ne sortiraient pas de l'hôpital. Donc, je savais que dans le nombre qu'on était d'ados, de jeunes ados, certains n'en sortiraient jamais. Donc, quand moi, je suis sortie, je me suis promis une chose pour le restant de ma vie. Et c'est, je peux vous dire où j'étais. J'étais en voiture de mon père. J'ai toute l'image. Je sais exactement où j'étais. Et je me suis dit, au nom de ces enfants-là et de ces ados-là, qui, eux, ne s'en sortiront pas, toi, tu n'as pas d'autre choix que de vivre et de vivre bien.
Ouais.
Et d'avoir ce que je disais l'autre jour... une loyauté vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire que je me dois de vivre en n'étant pas victime de ce que j'ai vécu, je me dois de vivre. Le pendant de ça, c'est que ça, parce que ça a dépendant aussi, il ne faut pas voir que...
Tout n'est pas rose bonbon.
Je ne sais pas quelle couleur c'est, mais enfin, ça varie. Le pendant de ça, c'est que parfois, on peut se dire, comme j'ai décidé que j'allais vivre, je vais vivre à fond. Donc, on peut avoir un peu, parfois, l'impression qu'on est excessif sur certains traits.
Je vois l'idée.
Alors, je suis flippée, donc je consomme rien de bizarre. Je ne fais pas de trucs extrêmes parce que j'ai très peur. Mais je peux m'embarquer dans des trucs... Parce que je dis toujours, je n'ai pas peur de mourir. Mais de ne pas vivre, ça, c'est ma plus grosse peur. Donc, du coup, non, même là-dessus, je n'ai pas de regrets. Parce que l'enfant que j'étais au moment où j'étais enfant, je ne pense pas qu'un enfant puisse avoir des regrets en se posant la question de ce que je suis en train de vivre, créer des regrets. C'est l'adulte, c'est quand on est adulte et qu'on commence à se questionner à partir de l'adolescence. Mais non.
Vous en avez fait quelque chose d'une certaine façon de ce traumatisme, vous en avez fait quelque chose
le plus positif possible, mais même peut-être que ça vous a donné une certaine forme de force, on peut le dire.
Ah oui, carrément. Ouais. Oui, je pense qu'on... Après, c'est ma perception qui est un peu à 2 francs 50, mais je pense qu'on a tous vécu des traumatismes de toute façon. Et je n'ai pas envie, moi, de mettre je veux pas mettre du degré dans les traumatismes.
D'accord.
C'est difficile, je trouve, vis-à-vis des gens, de dire bah, « alors toi, c'est moins grave que moi, parce que toi, si, ou toi, c'est plus grave. Enfin, » Je trouve cette idée un peu assez surprenante.
D'accord.
Et après, on fait ce qu'on peut pour en faire ce qu'on peut aussi. Et certains, ils vont y arriver. D'autres, ça sera plus difficile. Certains mettront plus de temps. Mais en tous les cas, je pense que cette part d'enfant-là... Non, même ça, je ne regrette pas, en fait. Mmh. Parce que qu'est-ce que... Ça voudrait dire que j'avais une prise dessus. Et à ce moment-là, je n'avais pas de prise, moi, dessus. Donc... chacun a fait comme il pouvait.
Ouais, et c'est vrai qu'à l'heure où, alors à la fois, on se plaint de tout aujourd'hui, des petits tracas, de tout ce qui est inconfortable, etc. On dit que c'est l'époque où on a du mal à renoncer, on dit que c'est l'époque où on a du mal à faire des sacrifices pour atteindre ses rêves. Enfin, je dis pas tout le monde, mais il y a une espèce de on a du mal à s'adapter. Enfin, les jeunes générations, à l'heure du tout clic, tout est possible. On veut tout faire, que tout, le succès arrive tout de suite. Tout ça, c'est pas évident de se dire quels sont, de faire le ménage au fond, Daniela, hein, dans les bons choix aujourd'hui.
Non, c'est pas évident parce que effectivement, on est parfois dans une situation, on est très intolérant, désagréable.
J'aime bien votre formule.
Intolérant ou désagréable. Et je pense que Ludwig a bien dit, c'est-à-dire que quand on vit des choses extrêmement difficiles, on peut effectivement rester bloqué dans cette posture, mais et si, etc. Et puis on n'avance pas. Et donc on est dans le regret pour le coup qui ne me permet pas de vivre autre chose. Ou bien c'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, c'était difficile, et maintenant qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici pour vivre autre chose, en fait, et de prendre ses responsabilités sur son propre bien-être, bonheur. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, ça dépend de l'histoire de chacun et de là où on en est par rapport à sa propre histoire, mais c'est une possibilité. Donc effectivement, aujourd'hui, on résiste beaucoup à toute forme de changement parce que on a envie d'avoir que l'agréable, hein. C'est tout à fait compréhensible.
C'est humain, en fait.
C'est tout à fait humain de chercher l'agréable et de plutôt vouloir éviter le désagréable. Sauf qu'on confond le fait de choisir, de renoncer à certaines choses avec quelque chose qui est de l'ordre de la perte. On se dit qu'en train de choisir, si je choisis, je vais perdre quelque chose. Voilà. Je vais me priver d'une expérience. Et on oublie que, finalement, faire des choix, c'est aussi un acte libérateur qui me permet de peut-être aller vers quelque chose qui me permet d'être plus aligné avec ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui sont les personnes qui sont importantes pour moi, qu'est-ce que je veux vivre dans cette vie qui n'est pas éternelle, et à la fin, qu'est-ce qui est important.
Ouais.
Qu'est-ce qui est vraiment important?
Pourquoi on nous tend de mal à le faire, Chantal Labeste, selon vous?
Alors, je pense qu'on a vraiment du mal. Ce que disaient Ludivine et même Daniela, hein, c'est qu'on est dans une phase, dans une époque de résistance. Et ça, c'est lié très souvent à ce qui se passe dans notre cerveau, et notamment par rapport à nos peurs. C'est vraiment les peurs qui peuvent nous handicaper au quotidien, ou nous paralyser à faire les bons choix, et même à prendre une décision quelconque, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, parce que quand même, moi, c'est ce que j'explique à mes clients, c'est que parfois, il est vraiment essentiel de faire un diagnostic de nos peurs, parce que pour 92%, il a été prouvé grâce aux neurosciences, elles sont complètement imaginaires et elles le resteront dans notre esprit pour toujours. Donc ça veut dire quoi? Si on prend les chiffres à l'envers, c'est qu'on a seulement 8% de risque de prendre une décision qui va amener à quelque chose de difficile. Donc, quand on regarde ces 8%, au final, il faut vraiment faire ce diagnostic et dire finalement la résistance que j'ai. Bon, il faut on parlait de degré tout à l'heure, d'intensité par rapport à la souffrance, c'est ce que disait Ludivine. Là aussi, il faut vraiment se dire quel est l'indice d'intensité par rapport à ma peur. Et c'est souvent quand on réalise que nos peurs ne vont pas se réaliser ou que même s'il nous arrive quelque chose sur la route, finalement, on est capable souvent de rebondir. Et par rapport à ce que disait Ludivine, et moi je trouve ça, j'ai pas lu encore ton livre Ludivine, mais je pense que je vais le lire à l'issue donc de cette super interview. C'est tu as fait preuve de résilience, et ça aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel pour être heureux dans la vie.
C'est vrai qu'on est partagé parce qu'on nous parle beaucoup, Ludivine, de résilience, à tout va. Hein,
oui,
c'est devenu un mot valise maintenant.
Alors moi, j'irai plus loin. Je pense que finalement, le développement personnel en arrive à un moment où il finit plus par nous desservir que par nous resservir. Parce que, et c'est les réseaux et c'est tout ça, mais en même temps, on prend ça aussi un côté très positif, c'est que du coup, tout le monde en entend parler. L'aspect négatif, à mon sens, c'est que on finit par faire croire aux gens, en tous les cas, on induit dans la tête des gens que aller bien, c'est aller bien tout le temps.
En effet.
C'est ressentir que des émotions positives tout le temps. Être équilibré, c'est aller bien tout le temps. C'est manger super équilibré tout le temps.
En
c'est
même temps, t'as des nanas qui sont
temps.
Là,
oui, c'est ça.
Avec le soleil au-dessus de la tête,
mais
sur
oui.
leur tapis, toute
et
la journée.
Et qui mangent, comme je
on
dis moi,
ça,
qui font de la méditation, qui font du yoga, qui gèrent super bien leurs émotions et qui boivent de l'eau en poudre. Et ces nanas-là, elles sont super. Et vous, quand vous avez envie
hyper
de manger une pizza, vous vous dites « Oh mais non, c'est pas possible, je vais rater ma vie si je fais ça. » Et on en est quand même là, on est quand même dans cette société. Plus
on
les injonctions de la société qui nous disent « Ah oui, mais si tu choisis ça, tu rates ça. » Et bien, il arrive un moment, ça devient super flippant, quoi.
Ouais.
Alors que dans l'idée du choix et du renoncement, moi, je dis toujours, mais c'est pas parce que tu renonces à ça aujourd'hui que tu y renonces pour toute ta vie. C'est-à-dire que choisir à un moment donné, c'est se dire, ben, aujourd'hui, je préfère du bleu que du vert, parce que voilà. Mais demain, peut-être que je reviendrai au vert. La vie n'est pas finie, en fait.
Vous savez, c'est les mamans qui se sentent tellement nulles tout le temps. Alors ça, c'est dans ce que je me mets dedans aussi. Voilà, le fait de reprendre sa passion, son sport d'avant qu'on ne peut pas, parce que les enfants sont petits, il faut s'en occuper. Et oui, ça demande du temps, ça, c'est des sacrifices, etc. Mais on reprendra plus tard. Et souvent, c'est difficile d'être OK avec ça, quoi. Hein. On a du mal à accepter juste la réalité et qu'après, peut-être, OK, on pourra se remettre à faire ce qu'on
mais
aimait,
parce etc. Oui, on est dans cette idée de la performance, en fait. Il faut être performant, il faut être équilibré.
En fait, c'est ça qu'il y a derrière.
Quelqu'un de
divin.
Bah, je pense qu'il faut être quelqu'un de bien parce que sinon, le regard des autres.
Je ne t'ai jamais demandé, mais c'est ça peut-être derrière.
Bah, oui, parce que le regard des autres, comment je vais être vue ?
Ah là là, c'est terrible. Annelle Bête ! Non, je ne plaisante pas. Ma philosophie, et oui, de vie, à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Jour incessante, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Les poings levés vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Ah.
Entrer en résilience, en résistance, point d'interrogation. En tout cas, comment apprendre à renoncer pour faire de bons choix de vie? C'est toute la question que nous nous posons aujourd'hui avec mes trois invités du jour, qui sont Chantal Labeste, Daniela Silva-Moura et Ludivine Casili. Est-ce que choisir, c'est résister d'une certaine façon, résister aussi aux tentations diverses et variées? Alors là, on pense au début de la vie professionnelle, à la fin des études, mais ça peut être à tout moment de la vie. Chantal Labeste, on va peut-être poser la question à Chantal Labeste au bout du fil.
Oui, alors écoutez, moi, ce que j'aimerais aussi
rebondir.
Oui, alors rebondir par rapport à cette peur, on parlait, et vous aviez l'air un petit peu toutes d'accord avec ça, c'est cette peur du regard des autres.
Oui.
Parce que l'objectif aussi aujourd'hui, c'est d'apprendre à renoncer. Donc, j'aimerais donner une petite clé par rapport à ça. Mmh. Notamment, c'est important quand on a des choix à faire et qu'on est bloqué par des peurs ou par justement cette peur-là, c'est de mettre en place comme un petit programme de désensibilisation à la peur. Et notamment dans mon livre, ce que je propose, c'est des mini-challenges à effectuer pendant ces 21 jours, mais surtout se dire « Ok ». Si je n'arrive pas à m'exposer au regard des autres, c'est souvent lié à la honte, je vais donc aujourd'hui me lancer comme challenge, par exemple, d'aller me confronter aux autres dans un univers, justement, où on sort de la zone de confort, on passe en zone de peur, hein, et on va, par exemple, aller dans une boutique et dire, je ne sais pas, une petite chanson à tue-tête, par exemple, ben voilà, cette chanson, je n'ai qu'une philosophie, la chanter, et voir qu'en fait, les autres vont forcément vous regarder, donc vous allez vous mettre en position, entre guillemets, pas d'échec, mais de difficulté. Et là, très souvent, on se rend compte qu'on est capable de le faire. Et on sort de ce challenge en se disant, finalement, la honte ne tue pas, le regard des autres ne me tue pas, et je suis peut-être capable de plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et on progresse comme ça. Donc, je propose souvent des programmes de désensibilisation à la peur. Alors, ça passe soit par une chanson, hein, ça peut être aussi s'habiller en fluo toute une journée et voir que les autres vont vous regarder, mais c'est pas si grave. Et c'est important, justement, quand on doit faire des choix, on parle de peur aujourd'hui, de résilience, mais de se mettre nous-mêmes dans une position de réussite en passant oui. par un pseudo-échec initial.
D'accord. Vous voyez ? Oui, je voudrais bien, voilà, je n'oublie pas, je note le coup du fluo, de la chanson, la chansonnette dans la boutique. Daniela et Ludivine Casili, moi, j'avais une question, vous voyez, à ce moment-là de l'émission, j'aurais pu vous la poser dès le début, mais c'est vrai que c'est parfois délicat de s'interroger sur, faut-il d'ailleurs se poser la question, est-ce que mes choix ont été jusqu'à maintenant des choix de peur ou des choix de décision, Ludivine? Est-ce que c'est une bonne question ou une très mauvaise question à se poser?
Très bonne question à se poser.
Pour une fois que j'ai bon depuis le début d'émission.
Ah, c'est intéressant. Moi, je dirais les deux. J'essaie d'être honnête avec moi. Je pense qu'il y a eu des moments, ça a été des choix de peur. Il y a eu des moments, ça a été des choix d'inconscience. Il y a eu des moments, ça a été des choix de méconnaissance de moi. Et puis, il y a eu des moments, ça a été des choix... je pense que plus j'avance dans la vie, moins il y a des choix de peur. Mais je ne peux pas dire que je ne fais plus de choix de peur. Je pense que ce serait mentir de dire ça, même si c'est totalement inconscient. Je pense qu'il y a des moments, je fais un choix en me disant, là, je flippe, je vais plutôt faire ça que ça. Et c'est de bonne guerre, quoi.
Ouais, c'est humain en même temps.
Je pense.
Voilà, Daniela.
Oui, c'est humain, effectivement.
C'est bien de se poser cette question pour avancer.
C'est très bien de se poser cette question parce que c'est différent de se dire, c'est vrai que j'ai peur et je vais choisir ça et je le fais en conscience. Donc, je sais pourquoi je l'ai fait. Et de vivre sa vie un peu orientée par sa peur sans savoir qu'elle me domine. Je pense que c'est très important qu'on puisse d'abord s'interroger si est-ce que le fait de ne pas choisir ce changement-là ou cette nouveauté ou ne pas choisir de renoncer à telle chose, qu'est-ce qui oriente ce choix-là? J'ai peur de quoi? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que j'ai peur de frustrer l'autre? Est-ce que j'ai peur de ce que les autres vont penser? Est-ce que j'ai peur? Et puis, si je le faisais et qu'il n'y avait pas toutes ces peurs, si je pouvais être sûre que tout le monde accepterait, en quoi ça serait bon pour moi? Parce qu'on oublie trop souvent que nous sommes responsables de la vie qu'on construit en soi, de notre bien-être, que ça s'entretient, que ça se cultive, et qu'on doit choisir de vivre sa propre vie, et pas celle des autres, ou pas celle que les autres voudraient que je vive pour qu'ils soient bien. Si chacun prenait ses responsabilités, on serait dans une société beaucoup plus bienveillante. Mais c'est important parfois de, effectivement, là, si je fais ce truc-là, quels sont les avantages pour moi, court, moyen, long terme, et puis est-ce qu'il y a des peurs, et elles portent sur quoi,
ouais.
En fait. Est-ce que ça porte sur un risque que je pourrais prendre, un danger qui pourrait s'infliger à moi-même, donc peut-être qu'effectivement, cette peur est justifiée. Hein, c'est parfois, c'est justifié de faire des choix en fonction de sa peur. Je ne peux pas traverser le périphérique les yeux bandés. Parce que j'ai trop peur.
Et en c'est revanche, tout à fait justifié. Rien faire parce qu'on a peur de descendre, de sortir de son lit. Là, il y a un problème. Enfin,
effectivement. Figuré, hein, bien oui, sûr, c'est hein. ça. Et donc, il faut se demander à quel point cette peur-là, elle est fondée. Et qu'est-ce qu'elle raconte à propos de moi, de ma manière de fonctionner et de me mettre en relation avec les autres et avec le monde. Et quitte à chercher de l'aide, en fait, pour faire ce travail-là. Mais il faut comprendre l'intérêt de dépasser ses peurs avant de s'exposer à ses peurs.
Je pense qu'il y a aussi un mélange en ce moment. C'est de finir par faire croire aux gens qu'avoir peur, c'est pas normal. Et peut-être que le travail aujourd'hui, c'est de se dire... Arrêtons de ne pas vouloir avoir peur, mais plutôt apprenons à nous connaître pour accueillir nos peurs, en nous disant bah, avoir peur, c'est normal.
Ouais.
Et je trouve, enfin, moi, j'ai jamais été aussi heureuse que la première fois où j'ai réussi à me dire bah, tiens, là, j'ai peur, et qu'est-ce que je vais en faire, en fait ? C'est pas grave, j'arrête de vouloir la repousser, cette peur-là, en me disant non, j'ai trop peur. Mais plutôt, je me dis bah, ok, j'ai peur. Juste ça. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant, en fait ? Est-ce que ça me change le cours de la vie ? Non. Est-ce que je vais mourir ? Non. Donc, qu'est-ce que je fais de cette peur ? Or, on confond accueillir cette peur-là comme la tristesse, la joie, parce que les gens vous disent « on veut gérer ses émotions », mais moi, quand je dis « mais tu veux gérer la joie ?» Non, non, je veux gérer la peur, la colère, la tristesse. Okay.
Évidemment.
Et oui, bah non, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'inconfort, ouais. Bah non, quand même, c'est mieux quand c'est confort. Quoi. Et la peur, c'est pareil, je crois qu'on confond et on devrait plutôt dire aux gens « mais l'idée, c'est pas de la virer, cette peur, c'est pas de pas la voir, l'idée, c'est de l'aimer autant que les autres, en fait.
Ouais.
Et de se dire, bah, elle est comme les autres. Et comme les autres émotions, elle va passer, de toute façon. Donc, ok, et juste de se dire, bah, là, j'ai peur, je le remarque, je l'accepte. Et ok, c'est pas grave, en fait.
Et puis, c'est une source d'information, en fait.
Bah, bien
comme
sûr.
Toutes les autres, les autres émotions. Si je suis joyeuse, ça me renseigne sur la manière dont je suis en train de vivre telle situation. Si j'ai peur, ça me renseigne aussi sur ce qui est en train de se passer. Donc, c'est important de s'arrêter plutôt que d'être dans le rejet ou dans la volonté de la supprimer, cette peur, ou de ne pas la regarder, de l'accueillir en tant qu'information qui raconte quelque chose et qui va me permettre justement de pouvoir m'ajuster.
Oui, hein? Vous disiez que c'était lié, juste avant de donner la parole à Chantal Labeste, au bout du fil, Daniela, vous disiez que vous donniez hors antenne les raisons pour lesquelles nous avions aussi peur du changement tout à l'heure. Et donc, c'est cette forme de peur que procure le changement à certaines personnes. Vous disiez que c'était lié aux réseaux sociaux, enfin, d'une certaine façon, et à toute cette...
Pas directement lié aux réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, comme tout un tas d'autres choses, viennent entretenir ce truc-là. Je pense qu'on ne peut pas attribuer ça uniquement aux réseaux sociaux.
Bien, évidemment.
Je pense que c'est contextuel, en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où il y a beaucoup de choses qui nous font peur.
Ouais.
Et de plus en plus, on est en permanence exposé à la peur. Et face à la peur, on a différents types de réactions possibles. Et une des réactions, c'est de rester figé, de faire le mort, en fait. Parce que je suis incapable, je ne sais pas quoi faire. Donc, on est quand même dans une période où on peut se retrouver très rapidement et facilement en détresse et sans avoir le sentiment de ne pas avoir d'endroit sur lequel agir, en fait. Parce que de moins en moins, on peut agir à l'extérieur de soi de manière efficace. Et donc, c'est important de cultiver la capacité de trouver en soi cette douceur, ce réconfort, ce lieu sûr-là, sur lequel je peux m'appuyer pour pouvoir naviguer dans cet environnement, tout en me rappelant que je suis quelqu'un, ce qui se passe autour de moi n'est pas moi, et que, je trouve pas, je peux pas changer cette situation-là, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir traverser ça de la meilleure façon possible ? Et ça passe parfois par la prise de décision, en fait, de modifier ma manière de faire les choses, de renoncer justement à certaines choses qui viennent m'éloigner de ce calme ou de ce bien-être, ou de ce mieux-être, je préfère dire ça comme ça, que je pourrais avoir.
Chantal Labeste, c'est un phénomène sociétal pour vous, le coup des choix de peur qui sont peut-être plus importants ? J'en sais rien, je pose une question comme ça.
Alors, moi, je pense déjà qu'il faut différencier, parce qu'il y a deux types de renoncements. On n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même les renoncements qui sont imposés, comme par exemple quand on a vécu, peut-être, tous on a vécu la période Covid, on peut avoir vécu des licenciements, des divorces. Là, on nous prive de quelque chose, et ce n'est pas notre choix direct.
On est d'accord.
Donc, c'est important. Donc, on a des privations d'amour, de liberté, des finances, etc. Mais ensuite, on a vraiment le renoncement conscient, qui là, et c'est important, on parle de développement personnel aussi, mais qui nous rapproche de notre quête, de nos valeurs également et de notre grand rêve. Et c'est pour ça que souvent, en fait, je parle de confiance en soi, justement pour contrecarrer ou du moins apprivoiser nos peurs et avoir un regain, un élan en nous. C'est capital quand on doit prendre des décisions. Et une fois qu'on a pris cette décision, parce qu'il y a quand même plusieurs phases de nos renoncements, on passe par une phase de déclic, d'introspection. Ensuite, la phase de résistance, donc c'est ce qu'on est en train de parler, on parle des peurs. Et ensuite, pour faire ce grand saut, il faut avoir vraiment cultivé en nous cette confiance qui est souvent un handicap. En fait, pourquoi on a peur aussi ? C'est parce qu'on manque de confiance en nous. Donc là, il y a un gros travail de fond à réaliser. Et c'est souvent, aujourd'hui, je veux dire, ça touche 80% de la population. Donc si on part du principe que quand on doit prendre des décisions, une fois qu'on a pris une décision, on doit renforcer des choses. Pour moi, il faut renforcer son mental, il faut renforcer sa confiance.
Et comment est-ce qu'on fait ?
Ah, ben alors là, pour ça, ben écoutez, j'ai écrit un deuxième livre aussi, hein, aux éditions Guy Tadamien, qui s'appelle Confiance en soi en 21 jours. Mais alors, je vais vous donner une des clés fondamentales, déjà, c'est de se dire que la confiance, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, c'est juste une compétence. Ce n'est pas inné. Il faut briser ce mythe en disant oui, non, mais lui ou elle a toujours eu confiance.
C'est vrai, ça.
Ça se travaille. Mmh. En fait, c'est une compétence. Et quand on veut développer une compétence, hein, quelle qu'elle soit, eh bien, on travaille. Et il faut surtout se challenger. C'est un petit peu ce qu'on dit toutes, c'est de se fixer des challenges pour apprendre à se dépasser et se dire finalement, la peur qu'on a eue, finalement, elle n'était pas si intense.
Ouais. Vous êtes d'accord, Ludivine, ou pas ? Vous êtes d'accord, Ludivine, ou pas ?
Oui, je suis d'accord, à part que j'ai une autre idée qui me vient en tête.
Allez-y.
Je pense que pour la confiance, et je rejoins du coup le livre de Daniela, je pense que pour se faire confiance, il faut d'abord se connaître. Vous savez, on est un peu comme des... je trouve qu'on est un peu comme des... Je vais prendre un exemple mauvais, mais c'est pas grave. Des machines à laver. On achète une machine à laver.
D'accord.
Vous allez voir, je vais loin.
J'adore.
On achète une machine à laver. Alors moi, je fais ça. Peut-être que personne ne fait ça, mais bon, on va mettre un bémol. On ouvre la boîte, on l'installe, on prend le mode d'emploi, on le met dans le tiroir du meuble à l'entrée, et puis on se dit « Oh, je vais pouvoir laver mon linge ». On appuie sur le bouton coton, on met son coton, son machin, ça soupline et c'est parti, on a lavé. Puis un jour, on a un pull en laine à laver et puis on se dit « Ah là là, je vais l'amener au pressing une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois » et on l'emmène au pressing. Et un jour, on se met devant la machine à laver, on se dit « Ah ben dingue, il y a un bouton écrit laine là, peut-être que ça lave la laine, donc ça fait 10 fois que je vais au pressing. » Et là, on se
la
dit...
La douce fait ça.
Et là, on se dit « En fait, si elle lave la laine et qu'elle lave le coton, peut-être qu'elle lave d'autres trucs que je ne sais même pas. Et pourquoi je le sais pas ?» Parce que je ne la connais pas. Et pourquoi je ne la connais pas ? Parce que je n'ai pas lu le mode d'emploi. Donc on va chercher le mode d'emploi dans le tiroir et on se dit, oh putain, mais elle lave aussi le synthétique. Elle repasse aussi en même temps et elle sèche, elle range dans le placard. Elle est géniale. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour pouvoir se faire confiance, on ne peut se faire confiance que lorsqu'on a lu notre propre mode d'emploi. Et lire notre propre mode d'emploi, c'est d'abord savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous touche, quelles sont nos valeurs. Quelles sont nos limites, hein ? On dit beaucoup en ce moment, on ne sait pas dire non. Mais évidemment, si tu ne sais pas tes limites, tu ne peux pas dire non. Quels sont mes besoins ? Alors là, je parle rapidement de l'ikigai, mais c'est ça. C'est-à-dire que tant que je ne sais pas comment je fonctionne et qui je suis, je ne sais pas si je suis capable de laver le coton, la laine ou de ranger ma... Bref, donc pour moi, la confiance en soi aujourd'hui, comme c'est encore une fois cette histoire de développement personnel, que j'aime et que je déteste à la fois, parce que je l'aime, parce que je suis dedans, et en même temps, je me dis, mais... On parle de confiance en soi, mais si on ne propose pas à la personne de se connaître, on ne peut pas juste lui donner un outil pour qu'elle ait confiance en elle, ça ne marchera pas. Parce que si on vous donne un outil pour avoir confiance en vous, mais que quand vous vous retrouvez dans une situation professionnelle, vous n'êtes pas capable de dire non à quelqu'un parce que vous n'êtes pas suffisamment ancré et aligné, parce que vous ne vous connaissez pas assez, bah, l'outil ne va pas marcher. Si je vous donne une fourchette en vous disant ça sert à manger et que je vous donne de la soupe, vous allez me dire ah bah ouais, mais ça ne marche pas ton truc. Mais non, mais évidemment, je ne t'ai pas dit que c'était de la soupe.
Bon, on a des yeux pour le voir, hein, que c'est de la soupe, mais...
Oui, mais enfin, si vous dites à un enfant, tiens, ça, c'est une fourchette et ça sert à manger. Mmh. OK, et vous lui donnez une assiette de soupe. Mmh. Il va dire, bah attends, tu m'as dit que ça servait à manger, mais ça marche pas ton truc. Hein.
Alors, la philosophie de la soupe et de la machine à laver.
Écoutez, on va se retrouver. Oui, je suis désolée, c'est toujours des exemples un peu tarabiscotés, mais au moins, ça le mérite.
C'est du concret, le divin.
Mais oui, quand
on
je
me demande de faire du concret dans cette émission.
Quand je les donne en séance, si je fais des grandes théories.
Vous embrassez.
J'espère. Quand je fais des grandes théories, on me comprend pas. Et quand je donne la machine à laver, j'ai les yeux qui s'ouvrent en me disant, ah, mais oui, je lis jamais le truc. Bah oui, évidemment.
Mais il était en panne il y a une semaine. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Gracias a la vida, si vous le permettez. To Life et John Bess, à tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando lo en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
De retour sur Radio Notre-Dame RCF, comment apprendre à renoncer pour faire de bons choix de vie. 52 minutes n'y suffiront certainement pas, mais quand même quelques pistes pour vous, auditeurs chouchous qui nous écoutez aujourd'hui. Chantal Labesse est avec nous, coach de dirigeants et de sportifs de haut niveau calais, elle qui a écrit plusieurs ouvrages dont Changer sa vie en 21 jours. Il y a aussi Avoir confiance en soi, c'est ça Chantal, en 21 jours ?
En 21 jours, oui.
C'est ça. Chez Trédaniel, Daniela Silva Moura est avec nous. Mieux je me connais, mieux je me soigne, courrier du livre, et puis Ludivine Casili, hypnothérapeute et psychothérapeute qui a écrit de son côté l'audace d'être libre, chez le même éditeur du courrier du livre. On parlait à l'instant entre nous, Chantal, l'intuition, comment on sait que nous sommes gouvernés par une intuition et pas juste par une peur limitante, comme on dit aujourd'hui. Chantal. Est-ce que c'est une question à se poser ou pas trop quand on fait, quand on est libre de faire un choix?
Oui. Moi, je dirais l'intuition, alors pas directement, c'est plus selon moi, on a des signes. Alors, est-ce que c'est lié peut-être, c'est peut-être je n'étais pas là pendant votre échange, mais c'est peut-être ça. C'est écouter, oui, les signes qui s'offrent à nous. En général, quand on prend une décision pour savoir si on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, et est-ce que notre projet va aboutir, ben, en règle générale, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plutôt favorables. Si ça va, si c'est facile, en règle générale, pour moi, ben, il faut y aller. Si par contre, on se rend compte que c'est très compliqué, que les renoncements qu'on a choisis, par exemple, de faire des sacrifices, parce qu'on n'a peut-être pas assez parlé, selon moi, de la balance risque-bénéfice. Donc si vraiment... D'accord. Nos risques, les sacrifices sont très très durs. À un moment donné, moi je dis à mes clients, arrêtez, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc c'est peut-être en ça que vous parliez d'intuition, c'est-à-dire ouais. S'écouter. Et dans ce cas-là, bien entendu, c'est super important. Après, tout dépend de nos croyances, mais en règle générale, on sait si on va dans la bonne direction.
Ouais, c'est intéressant, Daniela. Sylvain Moura, vous disiez tout à l'heure que nous avions tendance aujourd'hui à faire confiance à tout ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit, et à ne, d'une certaine façon, à s'oublier de penser, quoi. Oublier de se poser des questions et d'avoir éventuellement la réponse en nous. Et ça, c'est pas très bon pour la prise de décision. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est dans le manichéisme, du coup, on est dans « je veux des réponses à mes questions à l'extérieur de moi-même et je ne m'écoute plus ». Ça, c'est quand même un vrai problème. Hein.
Oui, on investit beaucoup la vue et l'audition. Ouais. Et on oublie les autres sens qui sont le toucher, le goût, l'odorat, c'est-à-dire ce que je sens dans mes tripes. Hein. Et effectivement, le corps et ce qu'il... me faire ressentir quand je suis face à un doute, je peux envisager quelles sont les deux possibilités que j'ai et juste prêter attention à comment je me sens en m'imaginant prendre telle ou telle décision. Est-ce que mon corps me raconte la même chose que ce que mon cerveau me dit ? Parce que c'est en cohérence.
Ouais.
Et là, parfois, souvent même, je dirais, on va avoir un indicateur pour savoir est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie ? Est-ce que ma décision, elle est fondée sur... des choses qui vont me permettre d'être mieux en cohérence avec mes besoins, mes limites fondamentaux, qui vont me permettre de renouer avec mon sentiment d'authenticité, de sens en fait, de l'être que je veux être dans ma vie, ou bien est-ce que je suis juste en train de rationaliser une prise de décision qui ne va peut-être pas être bonne pour moi, en fait.
Qui sonne un peu fou, en réalité, quoi. C'est ça. Peut-être en surface,
et si c'est pas bon pour moi, c'est généralement pas bon pour les autres non plus. Hein,
parce ça marche que... en tout, ça marche en amour, ça marche au travail, partout. Ça marche partout. Hein.
Ouais.
D'accord. Pause d'évaluation consciente, vous proposez plusieurs exercices de votre côté, hein, chacune à son truc, si je puis dire, à ses trucs. Pardon, je vais me faire gronder. Parler à votre grande communauté de psy, Daniela, Sylvain Moura, de votre côté, vous proposez des pauses d'évaluation consciente, par exemple, justement, pour aligner le corps, le cœur et l'esprit, si je puis dire. Pratique de l'écriture expressive, limite de mes réussites, comment se positionner, comment se poser, s'arrêter, arrêt sur image, là, et puis on ne prend pas une décision comme ça n'importe comment, il faut aussi le silence, le calme, la paix.
Il faut s'arrêter sur soi pour se regarder et se demander comment je vais là maintenant et qu'est-ce que je suis en train de faire. Et est-ce que ce que je suis en train de faire me permet bien d'être en ligne avec ce que j'ai posé comme intention dans ma vie. Donc effectivement, il faut d'abord ce travail d'auto-réflexion autour de quelles sont mes valeurs, comme disait Ludivine tout à l'heure. Hein, qu'est-ce qui est bon pour moi Parfois, on ne le sait pas. Et donc, il faut déjà commencer par là. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on sache pourquoi on le fait. On ne peut pas juste mimer quelque chose. Il faut aussi avoir compris l'intérêt pour moi de le faire.
Et c'est là où la vie nous l'apprend aussi, Ludivine, c'est-à-dire que ça vous le dites aussi au fil de votre livre, c'est-à-dire que les erreurs nous nourrissent aussi de petites leçons de vie, au fond.
J'espérais.
Heureusement, on s'ennuierait à mourir, certainement.
Je ne sais pas si on s'ennuierait, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il faut revoir toute notre vie. Si les erreurs ne seront pas là pour nous aider, il faut se remettre.
On est d'accord.
Oui, moi je suis convaincue que les erreurs sont là pour nous aider, mais encore une fois, à l'école, on ne nous apprend pas à faire des erreurs, on nous dit qu'il faut avoir 10 sur 10, donc forcément c'est un petit peu compliqué.
C'est vrai.
Et puis, on a aussi très peur de ne pas être aimé.
Donc, cette peur de ne pas être aimé, quand on veut être aimé par tout le monde, ben on ne s'écoute pas, parce qu'on passe nos journées à se dire « et si un tel ne m'aimait pas ?» et « si un tel ne m'aimait pas ?» sans même se dire « est-ce que moi j'aime cette personne ou est-ce que ça a de l'importance pour moi ?» C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens passer beaucoup de temps à essayer d'être aimé par tout le monde. C'est très égotique comme truc. Ils se sont dit « mais qui est aimé par tout le monde ?» en fait. Même, prenez Clint, pourtant il est reconnu et il y en a qui ne l'aiment pas, heureusement. Mais on passe beaucoup de temps à ça. On passe beaucoup de temps à remplir le temps aussi, c'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas, moi je le vois avec les enfants, mais si je ne lui fais pas faire ça, il va s'ennuyer. Mais c'est bien qu'il s'ennuie en fait, bien mais sûr, oui. C'est vachement bien d'apprendre à s'ennuyer, parce que quand on apprend à s'ennuyer, on apprend à être en lien avec soi, à s'écouter, à regarder pousser les fleurs, à rien faire en fait. Et c'est quand même super agréable comme activité. Et ça, je trouve que ce n'est pas une activité qui est suffisamment aux agendas des enfants. Alors, ils ont 3-4 activités par semaine, mais l'ennui, on ne leur met pas au calendrier parce que ça fait peur aux parents, finalement, de se dire oh, « comment je vais c'est être vrai. Vue si mon enfant n'a pas 4 activités dans la semaine et qu'il est à la maison et que je dis aux gens « il s'ennuie ». Ben oui.
Je laisse mon enfant s'ennuyer. C'est quelle ça. Mauvaise mère je suis.
C'est le ça, dire. Non, vous imaginez dire à vos copines, non, oui, moi je laisse s'ennuyer.
Mais oui,
pas de problème. Non,
mais vous pouvez aussi dire c'est à votre enfant, en fait, regarde, t'es là, t'as ça, tu peux dessiner, tu peux lire, tu peux regarder pousser les fleurs. Donc si tu t'ennuies, c'est un choix que tu fais.
On
et
a reçu
c'est
Marie Kéru il y a quelques jours, la Marie Kéru, la rangeuse, là, sur les réseaux, pour ceux qui la suivent ou la connaissent, qui a 3 jeux par enfant, qui se battent en duel dans son placard. Mais ses enfants sont très heureux, mais c'est vrai que...
Ah oui.
Mais il n'y a pas de jeu chez vous Non, non. Il n'y a pas de problème. Mais vos enfants s'ennuient? Non, non. En fait, non. Donc voilà, c'est des espèces d'images, d'idées préconçues qu'on compose sur toute notre réalité, en fait, qu'il faut avoir beaucoup, qu'il faut... c'est pas facile.
C'est fondamental de s'ennuyer pour apprendre à être flexible, pour pouvoir être créatif. Et je pense qu'effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire de choix non plus.
Bah oui.
C'est qu'on attend des formules, en fait. Donc, j'arrive bien à reproduire ce qu'on me dit de faire. Je fais comme dans le réseau, là. Je me lève le matin, je médite, après je fais ci,
c'est ça, comme
là, etc. Mais je ne sais pas quoi faire tout seul, en fait.
Oui.
Parce que je ne me connais pas, parce que je ne me regarde pas, parce que je n'ai pas appris que ce n'est pas grave, en fait, de s'ennuyer et que l'idée va venir, elle va émerger de moi et que je vais essayer ça et changer.
Ou de faire des erreurs, puisque voilà, notre émission, Chantal Labesse, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de culpabilité. Ludivine vous en parlait dans votre histoire, dans votre livre, dans lequel vous racontez justement des pans de votre histoire personnelle. Et c'est ça qui est intéressant. Chantal Labesse, forcément qu'il y a des phases où on culpabilise quand on avance dans la vie, on se dit ah, j'ai quand même fait de graves erreurs lourdes de conséquences, tel choix malheureux. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça pour vous, pour ne pas soit recommencer à faire de nouvelles erreurs?
Moi, quand j'entends le mot culpabilité, déjà, ou même erreur, ça me hérisse les poils. Parce que très honnêtement, on fait jamais des erreurs. C'est juste une histoire de mauvais endroit au mauvais moment, ou d'avoir. C'est pas forcément vrai. On va rebondir aussi par rapport à ce qu'on disait sur les enfants et prendre l'exemple d'un enfant. C'est ce que j'explique quand les gens me disent ah, je culpabilise. Quand on est enfant et qu'on apprend à marcher, on va tomber 2000 fois.
Ouais.
2000 fois. C'est-à-dire que de passer de la position à genoux à debout, comme tous les êtres vivants, enfin du moins humains, on va passer des phases. Alors, est-ce qu'on dit qu'il a commis 2000 erreurs? Non, il a appris. Donc moi, je ne vois pas du tout ça. Les erreurs, pour moi, n'existent pas. On est dans un système d'apprentissage. Et si on voit ça différemment et qu'on prend un angle différent, la vie devient déjà plus fluide. Et on parle un peu moins de peur, puisqu'on se sent plus en accord avec... C'est vraiment une histoire de mots. Et donc, pour moi, vraiment, c'est important de prendre conscience que, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, les erreurs... si vous voulez les appeler comme ça, mais c'est une chance extrême, parce que ça nous permet ensuite d'atteindre notre but. Et si on ne commet pas d'erreur, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est cette histoire aussi dont on parlait de connaissance de soi. Et je crois que c'était Daniela qui le disait tout à l'heure. En fait, si on ne se connaît pas, on ne peut pas savoir quels sont les bons choix pour nous. Eh bien, dans ces cas-là, c'est en commettant ces apprentissages répétés qu'on peut savoir ce qui est bon pour nous ou pas.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est ma vision en tout cas. La culpabilité, je n'en entends jamais, ça me dépasse. Voilà, non, c'est pas grave.
Écoutez,
il faut lâcher les prises aussi, c'est important de lâcher prise par rapport à ses choix. Une fois qu'on a pris une décision, on sait pourquoi on l'a prise. Ça, par contre, on parlait de responsabilité aussi tout à l'heure, qui est super important de faire ce qu'on appelle... Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a des arbres à choix, on a des techniques d'objectifs avec la méthode SMART. Il y a plein d'outils. Bon, encore une fois, cette histoire de cuillère et de fourchette, hein, par rapport à la soupe, c'est vrai que c'est en fonction de chacun. Il faut
adapter. Merci beaucoup, Chantal. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Et je m'adresse à vous, Ludivine, parce que vous dites... au début de votre livre, j'ai pardonné à presque tout le monde, je suis passée au-delà, je n'ai pas donné assez de temps à des gens qui me sont chers, j'ai appris que l'autoflagellation ne sert à rien, mais que la remise en question est indispensable. Alors j'essaie au quotidien de tenir le rythme, parfois simple, parfois impossible. C'est intéressant parce que je trouve que là, il y a quelque chose, il y a encore une fois une nuance que n'apprécie pas notre époque, n'est-ce pas, du dualisme et du manichéisme. Mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant de faire la différence, le distinguo entre les deux. Et ça, c'est bon, je m'adresse à mes amis cathos parce que j'en fais partie, donc je peux me permettre, tralala. Mais c'est vrai que parfois on a tendance à faire un petit peu l'amalgame entre les deux, quoi. Vous voyez, de rester, de ruminer, comme le dit Daniela, de ruminer sur des choses qu'on a, des mauvais choix, etc., et de culpabiliser. Et alors, il y a une frontière, quoi. Le remise en question est indispensable, évidemment, mais pas la culpabilité, quoi.
Mais en fait, c'est un livre, donc je l'ai écrit, ouais. Et je le pense profondément. Mais tous les matins, on se lève en permanence en essayant de faire au mieux entre la culpabilité, la remise en question, la rumination. C'est ce que je pense que je dois le dire aussi d'ailleurs à un moment donné, c'est de dire, en fait, j'essaie de faire comme je peux. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche moyen et parfois, ça marche pas du tout. Et je m'énerve.
C'est bien ou c'est comme ça, c'est la vie.
J'en sais rien, moi je me dis juste que je suis un humain et que j'essaie de fonctionner comme un humain, pas comme une machine. Et qu'en tous les cas, c'est pas en me disant c'est pas comme ça qu'il faut faire que j'y arrive en fait. Ça marche jamais quand je fais ça, moi. Quand je me dis c'est pas comme ça, c'est mal ce que tu fais, c'est nul, ça marche beaucoup moins bien que quand je me dis allez vas-y, mets un peu de douceur, mange une pizza et puis on verra bien demain.
Ouais. Moi, j'aime bien cette philosophie.
Ouais, mais je sais pas, j'arrive à 50 ans, c'est, en tous les cas, c'est ma conclusion, mais il y en a certainement d'autres qui marchent beaucoup mieux. Peut-être que si je méditais beaucoup plus, ça marcherait peut-être mieux, mais je ne sais pas être à l'équilibre. Donc, il y aura des périodes où je vais beaucoup méditer, des périodes où je vais faire beaucoup de yoga, et puis des périodes où j'aurai besoin de taper dans un sac parce que je veux pas finir en prison, donc il vaut mieux taper dans des sacs.
Bon, pas Ludivine, oui, on est d'accord.
Elle répond bien à ses besoins. Voilà. Elle connaît ses limites.
C'est ça, mais c'est exactement.
C'est peut-être le résumé de l'émission, finalement, les amis. Hein. Voilà, apprendre à connaître ses limites, donc à se connaître mieux pour faire de meilleurs choix. Merci Chantal Laveste et votre ouvrage Changer sa vie en 21 jours. Merci Chantal, j'ai très Daniel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Daniela, Sylvain Moura et votre mieux. Je me connais mieux, je me soigne au courrier du livre. Et enfin, merci Ludivine Casili. L'audace d'être libre, magnifique titre d'édition du courrier du livre également. Merci mesdames, bonne soirée à tous.
Merci.